votre rendez-vous quotidien avec l'information, le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Après 8 ans de règne socialiste, le Portugal vire de bord.
Oui, l'opposition de la droite modérée a remporté de justesse les élections législatives marquées notamment par un taux de participation le plus élevé en près de 30 ans, mais aussi une nouvelle poussée de l'extrême droite. Nous serons sur place dès le début du journal. On se rendra également en Ukraine qui ne décolère toujours pas après les propos du pape François ce week-end, invitant Kiev à négocier avec l'envahisseur russe. L'actualité en France est tout d'abord le projet de loi sur l'aide à mourir présenté par le président Emmanuel Macron. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Virginie Tournet, politiste et directrice de recherche au CVPOP. Enfin, un film d'auteur et français récompensé à Hollywood, Anatomie d'une chute, a été oscarisé hier soir meilleur scénario original. Avec un excédent budgétaire, une dette publique en diminution, un chômage au plus bas et une croissance supérieure à la moyenne européenne, les socialistes au pouvoir au Portugal depuis 8 ans avaient a priori suffisamment d'atouts à faire valoir pour réfuter l'argumentaire habituel de la droite. Mais c'était là, sans compter la croyance dans la volonté de changement, la fameuse alternance. Et c'est ainsi qu'hier le pays a donc de nouveau basculé, l'opposition de centre-droit ayant remporté d'une très courte tête les élections législatives. Alors la victoire de la droite ne lui permet pas pour autant de former une majorité absolue, ni même en coalition avec le petit parti libéral arrivé lui en quatrième position, ce qui laisse déjà augurer de tractations difficiles, voire d'un possible risque d'ingouvernabilité. Et puis le scrutin aura aussi surtout été marqué par une poussée donc du nouveau parti populiste et anti-système d'extrême droite, Chega, propulsé au rang de troisième force politique. Julie Pietri, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Aveiro près de Porto à l'occasion de ces élections. Alors je le disais, le pays s'est certes enrichi ces dernières années, sauf que la majorité des Portugais se sont en réalité appauvris. À la perte de pouvoir d'achat s'est rajoutée une crise du logement, sans parler de multiples dysfonctionnements dans la fonction publique. Et c'est donc dans ce contexte que l'extrême droite avait choisi, elle, de faire campagne contre la corruption avant de réussir, Julie, à faire entrer dans le débat le thème de l'immigration.
Oui, il y a, c'est vrai, au Portugal, du mécontentement, salaire trop bas, prix des logements inabordables. Sa colère, Marco, militaire, la dirige contre les immigrés.
On laisse entrer les migrants n'importe comment. Ils payent 800 euros pour une maison, mais ils sont 10 ou 15 à l'intérieur. C'est impossible pour une famille de 3 personnes.
Ce thème de l'immigration, il n'était pas présent dans le débat portugais il y a encore quelques années. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas un sujet de préoccupation centrale. Mais Chega est en train de le faire monter. Carlos Jalali est politologue à l'Université d'Aveiro.
C'est la première fois qu'on voit un parti qui a un discours plus anti-immigration. Ça a forcé les autres partis à parler aussi de l'immigration. C'est le cas du parti de centre-droite. Le Portugal est surtout un pays d'émigration, pas d'immigration. Le Portugal a eu une immigration très tardive. Ça a commencé il y a 5, 6, 7 ans. Ça pose des défis et Chega veut politiser ces défis.
Au Portugal, les Brésiliens représentent 40% des étrangers. Marlène est arrivée il y a un an. C'est accueillant ici, dit-elle. Je me sens vraiment chez moi. Elle aime sa vie au Portugal, donc, même si le processus de régularisation est long, encore un an ou deux à attendre, elle espère que la percée de Chega ne va pas compliquer sa vie à l'avenir.
Merci Julie Pietri, envoyée spéciale au Portugal avec Johanna Gabric pour les moyens techniques.
Il s'était dit particulièrement optimiste sur l'obtention d'un cessez-le-feu avant le début du mois sacré du Ramadan.
Et aujourd'hui, Joe Biden ne peut que constater qu'il avait tort, raison pour laquelle sans doute il se montre à présent de plus en plus ouvertement critique vis-à-vis de son allié israélien. Ce week-end, il a même sévèrement mis en cause Benjamin Netanyahou en l'accusant, je cite, de faire plus de mal que de bien à son pays, ce à quoi le Premier ministre israélien s'est contenté hier de répondre que le président américain avait tort. Toujours est-il que c'est donc sous le feu de l'offensive israélienne et sans perspective de trêve que la bande de Gaza, frappée en proie à une crise humanitaire dévastatrice, a débuté aujourd'hui le mois de jeûne musulman. Parce qu'en Haïti, toujours plus proche de l'abîme, la situation ne cesse de se détériorer, en particulier dans la capitale Port-au-Prince, en état de siège. Washington et Berlin ont annoncé tour à tour hier avoir évacué une partie du personnel de leur ambassade en cause la recrudescence de la violence des bandes criminelles qui, à la faveur du chaos politique comme de l'incurie des institutions, en profitent pour semer la terreur.
L'Ukraine ne hissera jamais le drapeau blanc.
Hier, Kiev a vertement répondu aux propos du pape François qui, la veille, avait appelé les autorités à ne pas avoir honte de négocier avec Moscou, de quoi nécessairement susciter la colère de nombre de responsables ukrainiens. Alors, dès samedi soir, le Vatican avait cherché à corriger le tir en insistant sur le fait que la formule de drapeau blanc signifiait une trêve plutôt qu'une reddition. Hier encore, après la prière de l'Angélus, le souverain pontife a appelé à la paix dans l'Ukraine, je cite, « martyrisé ». Il n'empêche que ces propos passent mal, d'autant que le pape s'était déjà attiré des critiques dans les tout premiers mois de l'invasion en ne désignant pas clairement la Russie comme l'agresseur. Correspondance à Kiev, signée Camille Magnard.
Depuis 24 heures, sur les réseaux sociaux ukrainiens, c'est une avalanche de mèmes. Ces images satiriques qui ont la dent très dure contre le pape François, représenté, pour le dire gentiment, comme une marionnette de Vladimir Poutine. Les rétropédalages du Vatican n'y ont rien changé. Même le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne, qui représente 8% des fidèles, s'est désolidarisé des propos du pape, indiquant que personne en Ukraine n'a l'intention de déposer les armes face à l'agression russe. Car c'est bien ça que les Ukrainiens ont compris. Que le pape leur demandait d'avoir le courage de s'avouer vaincu, de négocier avec la Russie. Or, ils savent très bien que négocier aujourd'hui, ce serait renoncer à leur territoire annexé et occupé par Moscou, soit un cinquième quasiment de leur pays. Ce serait donner la victoire à Vladimir Poutine, et ça, malgré les morts et les destructions, ça reste hors de question pour une immense majorité de la population. Notre pays ne hissera jamais d'autre drapeau que le nôtre, jaune et bleu, déclarait dimanche le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kouleba. Il n'a pas hésité au passage à faire un parallèle entre les propos récents du pape François et la position pour le moins conciliante du Vatican face à l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Attention à ne pas répéter les erreurs du passé. Voilà la réponse de Kiev au souverain pontife.
20 ans, jour pour jour, après les attentats de Madrid, lesquels avaient marqué le début des attaques islamistes de masse en Europe, l'Espagne, mais aussi l'Union européenne, rendent un hommage solennel depuis ce matin aux 192 victimes de 17 nationalités assassinées ce 11 mars 2004. De son côté, et à l'occasion de la journée annuelle qui leur est désormais dédiée, Gabriel Attal rend lui un hommage en ce moment même aux victimes du terrorisme à Arras, c'est-à-dire dans la ville même où il y a 5 mois maintenant, un professeur de français, Dominique Bernard, a été poignardé à mort devant son établissement par un ancien élève radicalisé. Un choix éminemment symbolique. William Delesseux s'est rendu justement à la cité scolaire Gambetta pour y rencontrer les élèves et enseignants qui ont eu à vivre cet attentat mortel. Reportage.
Depuis l'attentat, des blocs de béton blanc protègent l'entrée de l'établissement. Lilian, en classe de seconde, regarde le bâtiment.
Je ne peux pas m'empêcher de revoir ce mec avec son couteau qui repasse devant nous. Quand on regarde dans la cour, je ne peux pas m'empêcher de voir les employés du collège et du lycée en train de lui faire face. Sûr, ça reste en mémoire.
Ce moment-là, il a été difficile de l'aborder avec ses enseignants.
Ils n'osent même pas parler. Ils disent « ouais, ce qui s'est passé, c'était choquant et tout », mais ils n'osent pas mettre les mots dessus.
On n'en parle pas de ce qui s'est passé, c'est un sujet un peu tabou.
Arthur, en seconde, lui aussi.
C'est pas qu'on veut pas en parler, mais on évite le sujet en général. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez pudiques là-dessus, sur ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vu, etc.
Comme une page trop vite tournée dans l'établissement, raconte François Duceppe-Lamar, professeur d'histoire, encore très ému.
On a vite oublié les victimes et on est vite passé « Ah bon, ce sont des héros, ils se sont bien comportés, maintenant vogue la galère, on continue ». On a vraiment oublié le fait que nous avions vécu un traumatisme les uns et les autres et qu'il fallait en prendre soin des uns et des autres et pas seulement rentrer dans le quotidien.
Pour l'enseignant, l'hommage, la cérémonie d'aujourd'hui va permettre de peut-être libérer la parole de ses collègues comme des élèves.
C'était une promesse de campagne et après de longs mois de réflexion et plusieurs reports, Emmanuel Macron a donc fini par dévoiler hier son modèle de la fin de vie.
Dans un entretien publié par les journaux La Croix et Libération, le chef de l'État y détaille une aide à mourir qui, selon des conditions strictes, devra permettre à certains patients de recevoir une substance létale. Le projet sera présenté le mois prochain en Conseil des ministres pour un examen en première lecture à l'Assemblée en mai et dont l'aboutissement n'interviendra probablement pas avant 2025. Il faut dire que le sujet est particulièrement sensible. Plusieurs sondages décrivent aujourd'hui des Français majoritairement favorables à la légalisation d'une forme d'aide à mourir. En revanche, cette perspective suscite encore l'opposition des cultes, sans surprise, mais aussi d'un grand nombre de soignants. Quoi qu'il en soit, après la constitutionnalisation de l'IVG, voilà donc une nouvelle réforme sociétale d'envergure portée par Emmanuel Macron et qui permet, Stéphane Robert, au chef de l'État, de donner là encore des gages à son électorat, disons plutôt de centre-gauche.
Oui, un des éléments importants dans le surgissement de cette loi sur la fin de vie dans l'agenda politique est le moment choisi par le président. Il la dévoile juste après l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, qui fut célébrée en grande pompe la semaine dernière et au tout début d'une campagne en vue des élections européennes qui s'annonce difficile pour le camp présidentiel. Pour le président, ce projet de loi a une vertu, il est progressiste, comme l'était l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et le fait de lancer le débat aujourd'hui lui permet de rappeler qu'il se situe dans le camp des progressistes. On peut donc y voir une tentative de réconciliation avec l'électorat de centre-gauche qui a en majorité voté pour lui en 2017 et en 2022. N'oublions pas que l'année dernière, avec la réforme des retraites et la loi immigration, il avait franchement déplu et fâché cette frange de l'électorat qui s'était jusqu'ici mobilisé en sa faveur contre Marine Le Pen et le Rassemblement National. Il a donc aujourd'hui besoin de donner des gages et c'est ce qu'il fait. Parallèlement, le fait de mettre ainsi ce sujet sur la table lui permet de faire apparaître les divisions qui s'expriment à droite sur cette question. En effet, le chef de file du parti Les Républicains pour les Européennes, François-Xavier Bellamy, est opposé à titre personnel à l'euthanasie, tout comme il était opposé à l'avortement. Sur les questions sociétales, Bellamy incarne donc les positions d'une droite encore très catholique et conservatrice, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble de l'électorat de la droite classique auquel celui-ci prétend s'adresser. Il apparaît par conséquent qu'Emmanuel Macron, en se saisissant aujourd'hui de ce sujet sensible, en fait une arme politique qui lui permet à la fois d'essayer de rallier et de mobiliser l'électorat de centre-gauche en sa faveur et d'affaiblir le candidat qui prétend incarner la droite classique afin de conjurer des sondages qui donnent actuellement la liste du camp présidentiel à moins de 20% des intentions de vote.
Et pour continuer d'évoquer ce projet de loi du gouvernement, invité à présent de la rédaction Virginie Tournet, politiste, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF et autrice notamment d'un ouvrage intitulé « Le vivant est-il gouvernable ?» publié le mois dernier aux éditions de l'Aube. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Tara Schlegel, spécialiste santé de la rédaction. Bonjour Tara.
Oui, bonjour Thomas, bonjour Madame Tournet. Pour préciser quand même d'un mot ce qu'on sait, hein, cette aide à mourir sera réservée aux personnes majeures, il y a quatre conditions, donc être majeur, avoir toute sa capacité de discernement, être atteint d'un mal incurable à court ou moyen terme et souffrir sans pouvoir être soulagé. Alors ces patients feront une demande de prescription létale au corps médical qui se prononcera de façon collégiale. Alors voilà pour les très très grandes lignes, Valérie Tournet. Comment percevez-vous ce que l'on sait pour l'instant du texte d'Emmanuel Macron et en particulier des mots qu'il utilise ? Par exemple, il dit qu'il ne crée aucun droit nouveau, aucune nouvelle liberté.
Oui, alors en fait, on voit que sa prise de position dans l'entretien est en fait tout à fait fidèle à son style macronien. D'une part, il se singularise en proposant une sémantique innovante. Hein. Il avance un modèle français d'aide à mourir, mais qui refuse les catégories classiques qu'ont adoptées les pays voisins, hein, d'assistance au suicide ou de dépénalisation de l'euthanasie. Et puis d'autre part, on retrouve sa logique du « en même temps », qui est particulièrement marquée dès le début de l'entretien. Hein, comme vous l'avez rappelé, il dit que ce projet de loi ne crée ni un droit nouveau, ni une liberté. Et ensuite, il ajoute qu'elle ouvre la possibilité de demander une aide à mourir. Et en fait, toute sa prise de position est ponctué d'injonctions contradictoires. Il dit que ce n'est pas une loi consensuelle, mais une loi de rassemblement. Et il dit que cette loi ne dit pas que chacun peut disposer de sa vie en demandant une assistance, tout en ajoutant qu'elle vous laisse la possibilité de vous aider à en finir, car vous l'avez choisi. Donc on est vraiment dans un texte qui est... On baigne dans les injonctions contradictoires et ça renvoie, je pense, au souci qu'il a, qui est d'essayer de ne pas diviser le paysage politique plus qu'il ne l'est déjà sur la question.
Alors, en ce qui concerne l'effectivité de ce texte futur, hein, est-ce qu'il sera, d'après vous, de nature à répondre aux demandes des personnes en fin de vie et de leurs proches et de l'opinion publique par ailleurs ? Parce qu'on a quand même l'impression que la loi va exclure les cas les plus difficiles, probablement.
Alors, pour vous répondre, moi je serais tentée de revenir aux origines de la loi Leonetti qui a été promulguée en 2005 et de la loi Clé-Leonetti qui est passée 10 ans plus tard. Alors, si on se souvient bien, la première loi avait été mise en place après la douloureuse affaire de Vincent Imbert. Alors, c'était un jeune homme qui avait demandé au président de la République, d'alors Jacques Chirac, le droit de mourir après un accident de la route, parce que cet accident l'avait rendu tétraplégique, muet, aveugle, mais totalement conscient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit a posteriori que cette loi Leonetti, bien qu'elle ait amené de très bonnes choses, les directives anticipées, l'interdiction de l'obstination déraisonnable, cette loi a été totalement inapplicable à ce cas de figure qu'il avait pourtant fait naître. C'est-à-dire vraiment toutes ces souffrances qui sont engendrées, qui sont liées à des dommages cérébraux. Et ensuite, 10 ans plus tard, on a eu la loi Clé-Leonetti, qui a également été discutée en parallèle d'une autre affaire, elle aussi très médiatisée, celle de Vincent Lambert. Alors, les noms sont proches, donc surtout à ne pas confondre avec Vincent Lambert. Et là aussi, il s'agissait d'un patient qui avait des lésions cérébrales irréversibles, mais à la grande différence du premier cas de Vincent Lambert, il présentait une forte altération de la conscience. Et dans ce cas de figure, l'arrêt des traitements avait été décidé de façon collégiale, mais remis en cause par la mère du patient. Et donc pendant 10 ans, on a eu des procédures judiciaires qui se sont succédées. Et toute la question, c'était de savoir si l'état de conscience du patient était très altéré, mais existant, ce qu'on appelle l'état possi-relationnel, ou si le patient n'avait plus du tout de fonction cérébrale supérieure.
Mais donc, alors, parce qu'on va devoir s'acheminer vers la fin, mais est-ce que le texte à venir va pouvoir clarifier ces choses-là?
Les affaires qui posent le plus de difficultés juridiques, on le sait aujourd'hui, ce sont celles qui traitent de patients qui se situent à la lisière de la fin de vie et du grand handicap. Donc je ne suis pas certaine que ce projet de loi apporte véritablement des réponses à ces cas de figure, parce qu'il ne coche pas les conditions d'accès à cette aide à mourir. Dans le premier cas, Vincent Imbert n'avait pas un pronostic vital engagé à moyen terme, et Vincent Lambert n'était plus capable d'un discernement plein et entier.
Merci Virginie Tournay, directrice, je le rappelle, de recherche CNRS au CVIPOF, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage intitulé « Le vivant est-il gouvernable ?» publié aux éditions de l'Aube. Et merci également à vous, Tara Schlegel.
On en vient à ce géant du CAC 40 assigné en justice.
Oui, le groupe Carrefour, longtemps fier d'être le premier employeur privé de France, se retrouve aujourd'hui attaqué sur sa politique sociale. Concrètement, le syndicat CFDT lui reproche d'avoir transféré de très nombreuses enseignes à des tiers, comprenez des magasins en franchise et en location-gérance, une manière en somme de conserver sa part de marché commercial tout en se libérant d'un certain nombre de dépenses, à commencer par les salaires. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour.
On parle là de plus de 300 magasins et pas moins de 23 000 salariés sortis des effectifs Wafia du groupe depuis 2017.
Oui, et le géant français de la distribution répond vouloir préserver les emplois. Les magasins concernés par ces franchises et ces locations-gérances seraient, d'après la direction, des magasins en difficulté. Cette opération permettrait donc de ne pas les fermer ou au moins d'en relancer l'activité. La CFDT, de son côté, estime que le groupe, dans son entier, est bien loin d'être fragile, avec des bénéfices substantiels. Sylvain Massé, secrétaire national à la Fédération des services pour la CFDT.
Le concept d'entreprise en difficulté, il faut quand même le relativiser. On a une entreprise qui a réalisé 1,65 milliard d'euros de bénéfices l'année dernière, qui en plus a une politique actionnariale qui consiste à investir massivement pour soutenir son cours de bourse. Carrefour, fin d'année 2024, aura dépensé 3 milliards d'euros pour soutenir son cours de bourse en rachetant ses propres actions. Ça, c'est pas la pratique d'une entreprise en difficulté.
De l'argent qui aurait pu être investi dans ces 305 magasins que l'entreprise a préféré céder depuis 2018, explique la CFDT. Le syndicat dénonce une stratégie qui a des conséquences directes sur les salariés.
Ce que peut nous dire un salarié Carrefour, c'est le très fort sentiment de trahison. Un salarié qui a travaillé pendant une vingtaine d'années chez Carrefour, du jour au lendemain, on lui dit « mais bon, c'était très bien, finalement, pas de souci, mais c'est fini, au revoir, et ta rémunération va baisser, tes conditions de travail vont se dégrader ».
Après la justice qui vient d'être saisie, le syndicat va maintenant se tourner vers les parlementaires et vers le gouvernement pour les alerter sur une stratégie que la CFDT juge socialement destructrice.
Merci Wafia Kenich.
Un nouveau trophée cette nuit pour Anatomie d'une chute.
Oui, l'Oscar du meilleur scénario original que beaucoup lui prédisaient. Le film de Justine Triet qui a déjà séduit plus d'un million de spectateurs à l'étranger n'a en revanche pas obtenu de statuette pour ses quatre autres nominations, quoi qu'il en soit. C'est donc un sacre de plus pour ce long métrage, déjà récompensé d'une Palme d'Or à Cannes l'an dernier, de deux Golden Globes en début d'année, et puis le grand vainqueur de la cérémonie. C'est Oppenheimer, sept fois distingué, dont l'Oscar du meilleur film et de la réalisation pour un Christopher Nolan, jusqu'ici jamais oscarisé. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent variable, alternant nuages, porteurs d'averses et éclaircies. Six départements restent placés en vigilance orange au cru. La Gironde, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire, Lyon et la Charente-Maritime. Quant aux températures, elles seront comprises entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction. Et tout de suite,